Bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless, and that's why I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas, but they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. The waiters never are rude. Think of the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching and chess. So I I like the tiny little three. They're zen, they're ping pong, they're yin and yang li. I like Chinese thought, the wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese. Like Chinese. They only come up to your knees, yet they're wise and they're witty and they're ready to please. All together.
Wow, I jump around. Wow, I jump around. Wow, I jump around. 你好吗? 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 再见. I like Chinese. Chinese, their food is guaranteed to please. A 14, a 7, a 9, and like cheese. I like Chinese. I like Chinese. I like their tiny little trees. Their zen, their ping pong, their yin and yangies. I like Chinese.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui commence ce soir et Jean-Mathias va nous parler, et vous comprendrez le choix de la chanson par José, d'un livre de Jean-François Bilitaire qui s'intitule « Contre François Julien ». C'est aux éditions Alia. Donc François Julien, c'est un des spécialistes français de la Chine. Et il semblerait que Bilitaire en soit un autre, et il s'aime pas. Voilà, donc on va parler de la pensée chinoise, et nous, comme les bons petits pitons, on peut dire « I like Chinese » aussi. Voilà, Jean-Mathias, alors tu vas peut-être aussi nous dire quelques mots de l'autre bouquin de Bilitaire, là, que je vois sur la table, Esquisse, ouais. où il expose sa philosophie, ouais. Cache comme ça.
Alors oui, donc deux mots peut-être sur l'auteur, là, Jean-François Bilitaire, donc c'est un professeur de sinologie au départ, qui a enseigné à l'université de Genève, qui, si j'ai bien compris, est à la retraite maintenant, et qui a publié un certain nombre de textes sur, sur la Chine. Ça, c'est son objet d'étude, mais aussi sur la sinologie, c'est-à-dire sur la manière dont la littérature, la pensée, l'histoire de la Chine sont pensées et restituées en Europe et singulièrement en France. Alors, il a aussi publié un certain nombre de petites études, dont une très récemment, donc c'est ça le deuxième livre de lui là, que j'ai amené aujourd'hui, toujours chez Alia, qui s'appelle Esquisse au pluriel, et dans lequel il développe une sorte de philosophie générale d'inspiration démocrate, libertaire, radicale, avec des réflexions tout à fait intéressantes sur voilà, le langage, la langue chinoise, l'action, la liberté, enfin des théories et des approches assez philosophiques et aussi linguistiques voilà, où il expose en fait voilà, sa philosophie générale. Donc ça vient de sortir, ça Esquisse, et c'est à l'occasion de la sortie de ce petit bouquin que j'ai découvert un petit peu l'œuvre de Jean-François Bitter, et notamment ce petit pamphlet, toujours chez Alia, qui s'appelle donc Contre François Julien, dans lequel il se paye, il n'y a pas d'autre mot,
le sinologue le plus connu en France.
Voilà, un des sinologues les plus connus en France, sachant que le François Julien en question est pas un sinologue académique, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a un positionnement de philosophe, hein, à l'égard de la pensée chinoise ou de l'histoire des idées chinoises, et qui a été François Julien, directeur du Collège international de philosophie dans les années 90, qui a publié de nombreux ouvrages dans des éditions très chic, dont le nom commence par un G et finit par un D, avec Gallimard pour ne pas les nommer, qui vient de sortir un petit livre là très radical et très chic en même temps sur contre l'identité culturelle. C'est une figure pas très connue, hein, puisque moi j'ai découvert aussi un petit peu en même temps que la critique de Bitter, mais qui semble voilà avoir en tout cas une surface éditoriale et puis une certaine aura, hein, dans le milieu.
J'en entends parler depuis les années 90 de François Julien. Ouais. J'ai mis le nez dans un seul de ses bouquins, ouais. Mais en revanche je sais qu'il avait une certaine en gros il a un certain public dans le milieu, allez je vais être méchant, dans le milieu semi-cultivé des profs, qui veulent savoir d'autres choses sur la Chine, mais qui vont aller vers celui qui est réputé comme le spécialiste. Je pense que il a trouvé le bon spot éditorial, tu vois, un spécialiste reconnu de la Chine, donc pouf, hop, il attire à lui tout un tas de gens comme ça. Okay.
Alors, moi, n'ayant pas lu François Julien, je vais pas taper sur François Julien, parce que, en fait, l'intérêt du petit livre de Bitter, là, c'est que, au fond, ça paraît peut-être un peu paradoxal, mais c'est que il me semble que l'intérêt du livre n'est pas là. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, qui est très agréable à lire, qui est très court, je le signale, parce qu'il fait une centaine de pages, et c'est loin des pavés qu'on peut parfois présenter.
Ouais, toi, tu commandes pas des bouquins de 600 pages.
Non, je densifie. Et alors, du coup, l'intérêt du livre, il est évidemment, j'imagine, pour un lecteur de François Julien, de remettre un peu en question un certain nombre de choses, mais la méthode, le style et les engagements d'interprétation d'une philosophie aussi variée et aussi complexe qu'elle semble l'être que la philosophie chinoise suffisent vraiment pour lire ce petit livre de Bitter, et le positionnement qu'il adopte m'a paru très intéressant à recouper des tas de choses. Pourquoi ? Parce que finalement une des thèses de Bitter, c'est que finalement François Julien s'intéresse assez peu à la philosophie chinoise dans son histoire, dans sa diversité et dans le type de questions et de critiques qu'elle est susceptible de provoquer chez nous. Et qu'en réalité, il se pourrait, en tout cas c'est la thèse qu'il défend, que le succès de François Julien soit lié à tout autre chose, c'est-à-dire finalement à la construction d'une espèce de figure exotique de la pensée chinoise qui est définie comme un bloc homogène et qui serait finalement la pensée la plus éloignée de ce qu'il appelle la pensée occidentale, évidemment. Donc ça serait l'altérité, si vous voulez, vraiment l'autre de l'Occident et de l'histoire de la pensée occidentale. Donc on fonctionne sur des gros machins, hein, quand
des
même.
Des gros machins, d'ailleurs, je me rappelais qu'une fois, tu nous avais parlé d'un petit essai de Graeber où il essayait de montrer que l'Occident n'existe pas.
Que l'Occident n'existait pas et que la pensée occidentale elle-même, effectivement, en tant que telle, n'était pas non plus...
Et donc la pensée chinoise en tant que telle ne doit pas beaucoup plus exister.
Alors,
c'est-à-dire qu'il y a des penseurs chinois, oui. Ça c'est sans doute à compter. incontestable. Mais en revanche, il y a sans doute pas plus de philosophie chinoise que de philosophie occidentale, que de
Dorenbosch. Exactement. Alors ça, si vous voulez, c'est un point de méthode qui déjà rend l'approche sympathique. Et évidemment, les conséquences que Jean-François Bittère en tire sont également très stimulantes, je trouve. Donc si vous voulez, il rappelle aussi que, au fond, alors... D'après lui, le succès d'approche comme celle de François Julien, il tient justement au fait qu'on a une figure exotique comme ça. Une figure exotique, apparemment assez brillante. Bon, pour autant que je puisse en juger, les citations qu'il donne effectivement de Julien sont effectivement très maîtrisées, très, très, très léchées, sans doute convaincantes. Voilà. D'ailleurs, il dit que tout n'est pas acheté, qu'il y a des choses aussi qui sont intéressantes sur l'ensemble de l'œuvre, bien sûr. Mais le positionnement, lui, il est intéressant. J'avais envie aussi de parler de ce livre-là un petit peu dans la continuité de l'émission précédente où on avait parlé à propos du texte de Todorov là, que tu avais présenté, de la manière dont la philosophie française, notamment au moment des Lumières et puis tout au long du 19e siècle, avait essayé de penser l'altérité, la différence culturelle notamment, et comment c'est très souvent ça avait débouché sur des formes de racisme finalement assez radicales. Au fond, on retrouve un peu ce même genre de critique ici, à propos donc de la lecture que François Julien propose de la Chine.
C'est pas très étonnant si, d'après ce que tu m'as dit en antenne, Bittère s'inspire aussi de la pensée des Lumières. Il fait là forcément deux, trois points d'accroche avec Todorov, parce que Todorov, c'est pareil, c'est un héritier des Lumières.
Alors, le mieux, c'est peut-être de bon, j'ai essayé de lire pas mal d'extraits, parce que je trouve le livre est très bien écrit. Voilà, encore une fois, il fait 100 pages, mais il y a beaucoup de choses dans ces 100 pages-là et c'est suffisamment rare pour être lu. Et alors, au début du texte, en fait, il remet en perspective sur la manière dont, justement, on a pensé la Chine et la pensée chinoise en Europe et particulièrement en France. Et ce qui rappelle, bon, c'est des choses qu'on sait plus ou moins, mais que, au fond, le mythe d'une Chine qui serait complètement autre que l'Occident ou que la pensée rationnelle occidentale, ce mythe-là lui-même a une histoire et qu'au fond le François Julien qui se présente comme une espèce de d'approche un petit peu hors piste, comme un interprète libre finalement des auteurs chinois, s'inscrit en réalité dans une tradition qui est très ancienne. Et ce que rappelle Bittère, c'est que les premiers à avoir construit ce mythe-là d'une Chine radicalement différente, ce sont les jésuites. Les jésuites envoyés en mission par le pape en Chine pour convertir la population chinoise, et qui ont choisi une stratégie de conversion qui est parmi d'autres, que c'était pas la seule possible, mais le programme des jésuites a été de convertir la Chine en commençant par la tête, c'est-à-dire par l'empereur et par l'appareil mandarinal, c'est-à-dire les sages lettrés, les hauts fonctionnaires lettrés qui l'entouraient. Et cette stratégie-là, elle a évidemment des conséquences, c'est que les jésuites se sont toujours gardés d'énoncer la moindre critique sur le système politique impérial, extrêmement dur et extrêmement despotique, qui était mis en place en Chine. Et ça a évidemment des conséquences sur l'interprétation qu'on peut donner de la pensée chinoise ou des textes chinois, puisqu'à partir du moment où on s'interdit de mettre en question le système de domination et le système de despotique que cette pensée va justifier, on perd de vue, si vous voulez, les enjeux et les antagonismes et les débats qu'il peut y avoir à l'intérieur entre auteurs. Alors, je vous lis un petit passage là-dessus, où il dit les choses de manière extrêmement précise. Il nous dit, alors c'est page 13 du petit livre, mais il faut remonter encore plus haut dans la genèse du mythe. L'ironie de l'histoire a voulu que Voltaire et les autres sinophiles de son temps, oui, parce que Voltaire s'inscrit lui aussi, d'après Bittère, dans cette tradition héritée des jésuites. Donc l'ironie de l'histoire, nous dit Bittère, a voulu que Voltaire et les autres sinophiles de son temps se fondent sur la vision de la Chine élaborée par leurs ennemis, c'est-à-dire les jésuites. Or, si l'on ne peut nier le mérite que les jésuites, français principalement, se sont acquis en faisant connaître la Chine à l'Europe savante de l'époque, donc là on est 16e, 17e siècle, il ne faut pas oublier qu'ils l'ont fait en poursuivant un but qui leur était propre. Ils cherchaient à justifier la politique que leur ordre avait menée là-bas et qui consistait à tenter de convertir l'Empire par le haut en se servant du pouvoir de l'empereur. Il leur fallait donc donner une idée favorable des souverains chinois, de leur gouvernement, du mandarinat qui administrait l'Empire et du confucianisme qui constituait la clé de voûte de l'univers intellectuel mandarinal. C'est ce qu'ils ont fait avec efficacité. En particulier le père Jean-Baptiste du Halde, qui a surveillé de près la publication des fameuses lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus. Tous les penseurs du XVIIIe n'ont pas été des sinophiles enthousiastes comme Voltaire ou comme Leibniz au siècle précédent, mais tous ont raisonné sur la Chine telle que l'a présentée les jésuites. Les pères jésuites sont les auteurs de cette Chine autre, faite pour « donner à penser », entre guillemets, dont François Julien nous a livré le dernier avatar.
Alors, au sujet de Voltaire et des jésuites, il faut savoir qu'ils étaient alliés. Ils n'étaient pas qu'ennemis. Ils sont alliés jusqu'à la querelle sur le déterminisme qui a lieu autour du livre de Montesquieu, « D'Esprit des lois ». Parce que Voltaire, lui, voulait... En gros, il se presse à garder les jésuites dans sa poche pour taper sur les jansénistes. Enfin bref, ce qui fait qu'il est tout à fait possible que Voltaire ait été marqué par certains trucs jésuites aussi.
Ah bon. Alors sur le contenu, du coup, qu'est-ce qu'on manque si évidemment on s'inscrit dans cette tradition-là et si on est effectivement prend pour argent comptant les discours ou les écrits tenus par les mandarins nommés par l'empereur, évidemment, et au service de l'empereur pour justifier leur patron. À leur employeur. Alors vous allez toujours un peu plus loin dans le livre, page 26, alors il nous fait une espèce de résumé, si vous voulez, de l'idéologie impériale, dominante, qui est finalement la matrice de cette pensée chinoise que François Julien présente comme une pensée autre sur laquelle, de laquelle nous aurions beaucoup à apprendre. Alors Bitter résume les choses de la manière suivante, il nous dit... il s'appuie sur les travaux d'une historienne chinoise contemporaine qui vient de soutenir une thèse visiblement là-dessus qui s'appelle Li Tongtsun. Et il nous dit que selon Li Tongtsun, les conseillers des empereurs Han, donc la dernière dynastie, celle qui a régné le plus longtemps dans le système, à l'intérieur du système impérial, donc les conseillers des empereurs Han ont élaboré pour servir leur maître une sorte de culte de l'un, UN, principe régissant toute chose dont l'empereur était l'agent premier sur Terre. Un système de relations sociales hiérarchisées, de part en part, devait manifester cette grande unité. Il imposerait à chacun un rang et une position déterminée, lui prescrirait des devoirs spécifiques, exigerait de lui la vertu particulière qu'il fallait pour les remplir. Ce système distribuait de façon savante, à chacun selon sa place, un devoir de soumission vers le haut et un droit de domination vers le bas. Le fondement de cet édifice était le peuple, Min en chinois, qui n'avait que le devoir de soumission. Au sommet se trouvait l'empereur, appelé souvent Chang, c'est-à-dire le haut, qui n'avait que le droit de dominer. Ce système avait une vocation universelle, catholique, au sens étymologique. Il impliquait que chacun était responsable, dans son rôle, de l'harmonie du tout, et portait en ce sens une responsabilité totale. Il en résultait un devoir généralisé d'abnégation en faveur de cette totalité. Le moi était haïssable, un individu rebelle était châtié, exclu, mais la violence devait autant que possible rester discrète pour ne pas troubler l'harmonie de l'ensemble. Citation, « Il ne faut jamais montrer les armes tranchantes dont use l'État », dit Lao Tse. Pour que l'exemption de toute loi morale dont jouissait le souverain n'apparût pas, il fut déclaré « fils du ciel », ce qui lui imposait une piété filiale toute fictive et le devoir par contre bien réel de défendre la totalité, c'est-à-dire l'ordre impérial. Donc vous avez...
C'est la philosophie officielle chinoise ou c'est la philosophie officielle chinoise selon les jésuites?
C'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose. D'après Bitter,
les jésuites avaient très bien compris.
Les jésuites ont compris parfaitement la fonction idéologique de cette philosophie-là et la manière dont ils l'ont restituée et dont ils l'ont racontée auprès des intellectuels et des savants français et européens au sens large a pris tel quel et pour argent comptant ce système de pensée-là, sans évidemment sans faire apparaître les enjeux politiques de la chose. Là, c'est Bitter qui décode, bien sûr. Mais on verra après comment justement ce système de domination totalitaire, au fond, se trouve dissimulé ou affaibli ou reconverti sous des formules beaucoup plus vagues et beaucoup plus ésotériques.
Ouais, ça me fait penser à la métaphysique néoplatonicienne, mais bon, réalisée en politique avec le lin qui émane, qui a des hypostases, c'est-à-dire en gros, il produit des choses inférieures à lui, et ces choses inférieures à lui peuvent absolument jamais être au-dessus de lui, elles peuvent que se retourner vers lui pour essayer d'y retourner désespérément. Marrant parce que tu vois, on dirait une métaphysique occidentale.
Exactement, réalisée
en politique.
Exactement.
Mais bon.
Exactement. C'est effectivement comme ça que Bitter suggère d'aller interroger les textes chinois en disant effectivement qu'est-ce qu'ils ont de commun avec nous, à quoi on peut les comparer, dans la mesure où les problèmes politiques que rencontrent les Chinois depuis les débuts de l'Empire ne sont pas radicalement différents, ne peuvent pas être radicalement de ceux que ont pu rencontrer les peuples européens ou ailleurs. n'importe quel autre peuple sur la planète.
Ou les Sud-Américains qui avaient aussi des empires,
etc. Donc enfin, on a une idéologie impériale totale, effectivement, avec un système de domination où chacun a sa place et où chacun est assigné à des devoirs, sauf.
Une autre remarque rigolote, enfin, c'est que pour qui a vu des films chinois réalisés récemment, où ça fait toujours l'apologie de l'État et du sacrifice de l'individu, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Oui, on n'a pas grand-chose à changer, sauf que, évidemment, les choses sont moins claires que ça, rappel bitter, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu aussi, dans la pensée chinoise, et notamment chez les mandarins, même s'ils étaient sous contrôle professionnel, je dirais, des débats et des controverses et des luttes, évidemment, pour essayer de limiter ou de détruire tout simplement ce système de domination. C'est ce qui rappelle, donc, toujours en s'appuyant sur les travaux de cette historienne là, donc Li Tongtsun, qui explique, je lis toujours, on est page 30 là, dans le dernier chapitre de son ouvrage, que toute l'histoire intellectuelle et politique du XXe siècle a été marquée en Chine par une lutte entre la volonté de se dégager de ce système ou celle de le maintenir sous une forme ou une autre. Nous n'en sommes pas encore sortis, dit-elle, l'historienne qui cite, parce que nous avons cru pouvoir nous en libérer en lui opposant d'autres systèmes idéologiques. Le communisme, typiquement. Le progrès véritable, d'après cette historienne, ne viendra que quand nous donnerons enfin la primauté à l'individu, quand nous poserons, premièrement, qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin qu'on pense à sa place. Deuxièmement, qu'il a vocation à s'auto-déterminer, c'est-à-dire qu'il n'en existe pas de définition valable une fois pour toutes. Et troisièmement, que les libertés politiques sont nécessaires pour cela. C'est en agissant selon ces principes que nous sortirons enfin du système traditionnel, conclut l'historienne, et nous comprendrons ce qu'il a été et que nous en ferons véritablement la critique. Avant cela, dit-elle, nos discussions continueront à tourner en rond. Bon, et évidemment, la critique que Bitter fait à des approches...
Elle est en prison, aux États-Unis.
Elle n'est pas en prison, il semble qu'effectivement, elle ait soutenu sa thèse à l'étranger. Mais c'est évidemment quelque chose de, comment dire, de rafraîchissant, parce qu'on met pied, effectivement, sur des problèmes qui sont des problèmes universels, au fond. Et pas plus occidentaux, ou francophones, ou franchouillards, ou européanisants, voilà, que d'autres. Cette lutte-là, elle est évidemment... Elle existe en Chine, comme elle a existé partout ailleurs dans le monde. Et après, évidemment, les conditions historiques et l'histoire des régimes politiques a fait que, dans certains endroits, ça peut émerger, ça peut s'autonomiser, ça peut produire des effets, et dans d'autres, non. Et c'est le cas de la Chine. Mais du coup, ramener Julien, qui est présenté comme un intellectuel un peu radical chic de gauche, pour situer, à quelqu'un qui finalement reprend les poncifs les plus, non pas réacs, mais les plus conservateurs. À propos de la Chine, hérité de la lecture qu'en ont fait les jésuites dans une perspective de conversion élitiste par l'appareil impérial, qu'a foiré d'ailleurs, je trouve ça assez éclairant. Voilà, sans avoir lu François Julien, sans être absolument spécialiste de la pensée chinoise, la position d'interprétation défendue par Bitter a cet avantage-là. Alors, un des gros arguments de Julien est finalement de définir la pensée chinoise par ce qu'il appelle la pensée des lettrés. Comme s'il y avait une homogénéité, si vous voulez, d'une classe intellectuelle, au fond, qui aurait partagé, voilà, une certaine vision du monde et qui l'aurait couché sur papier et systématisé d'une certaine manière. Ce qui est, là aussi, une espèce d'abstraction, d'après Bitter, puisque parmi ces lettrés, il y a effectivement des gens favorables, des gens défavorables au pouvoir, pas beaucoup, mais il y en a, nous dit-il, et évidemment, si on les laisse de côté, on comprend rien. Et c'est évidemment une manière de se passer, en l'occurrence, de l'histoire et de la sociologie. De faire l'impasse sur tous les instruments de contexte qui peuvent permettre de comprendre le sens d'un texte et sa portée, mais aussi ses limites, selon les cas. Et au fond, ce que Bitter reproche à François Julien, je le cite encore, je suis assez fan du style de Bitter, on est page 43, il nous dit, voilà, le discours brillant et bien rodé de François Julien dispense les intellectuels formés au moule de l'université républicaine laïque d'étudier les œuvres quand elles sont accessibles en traduction ou de s'intéresser de plus près à l'histoire chinoise. Je pense que ces livres, dit-il, souvent difficiles et désinvoltes dans leur manière de citer les textes, d'expliquer les notions et de situer historiquement les phénomènes dont il parle, ont convaincu beaucoup de lecteurs que la pensée chinoise, entre guillemets, était trop éloignée de la leur pour les concerner en quoi que ce fût, et les renvoyer finalement à leur identité d'occidentaux, réputée fondée sur la philosophie grecque, ce qui les flattait. Et cela ne les a pas gênés, semble-t-il, qu'au terme de cet aller-retour, la philosophie ne fut plus une recherche, mais une forme de pensée particulière née du hasard, d'un pli entre guillemets, que nous avons pris, comme dit François Julien, et que nous n'avons pas à justifier. Hein, une des raisons du succès de François Julien d'après Bitter, notamment parmi les profs que tu citais tout à l'heure, universitaires, mais pas seulement, c'est que, d'après lui, cette manière de penser un système impérial de domination idéologique, au fond, flatte finalement la figure et l'espèce de désir de mandarinat républicain qui est propre à l'université française et à l'éducation nationale, bien souvent pour le public des lettrés.
Bah, c'est Jean Jaurès qui avait écrit un petit texte, où il dit quand les intellectuels tiennent le fouet.
Exactement.
Il y en a plein qui en rêvent. On va peut-être faire une pause musicale pour que nos auditeurs puissent se reposer. Et puis on vous retrouve après.
Everybody I see here is in a different plot. I said everybody I see here is in a different plot. Nothing ever starts from a dot. Nothing ever starts from a dot. Do all the people I see here want to become saints? Do all the people I see here want to become saints? If they are saints, they are bandits too. You wanna be a saint, no peace for you. Chuang Tzu was at the kermesse of Mr. Han. Chuang Tzu was at the kermesse of Mr. Han. Will you water the floor if the rain falls? Will you water the floor if the rain falls? All the people I see here want to do their bit. All the people I see here want to do their bit. Chuang Tzu was at the kermesse of Mr. Han. Chuang Tzu was at the kermesse of Mr. Han.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit dans cette deuxième partie. Et donc Jean-Mathias nous parlait d'un livre de Jean-François Bitter qui s'intitule Contre François Julien et qui a été édité chez Alia. Et puis il y a un autre bouquin sur la table du même Bitter qui s'intitule Esquisse. Alors Bitter, ça s'écrit B-I-2-L-E-T-E-R si vous cherchez des références. Mais vous devriez trouver facilement avec contre François Julien. Et puis là, breaking news, on apprend, grâce à José, que Badiou aurait écrit un livre de soutien à François Julien. Un article de soutien à François Julien. Donc, comme vous le savez, nous sommes des admirateurs inconditionnels de la grande pensée du grand Alain Badiou, celui qui nous sauvera de la décadence et qui nous apportera le vrai communisme grâce aux mathématiques et à la théorie des ensembles. Donc voilà, ça nous fait plaisir, ça prend ce genre de nouvelles, c'est toujours rigolo.
Mais c'est intéressant, et moi ça me surprend absolument pas, parce qu'effectivement tout ce que Bitter reproche finalement à François Julien, c'est-à-dire de présenter une espèce de philosophie très abstraite qui laisse complètement de côté le fait que c'est finalement une idéologie totalitaire de domination impériale, je suppose qu'effectivement ça doit pas empêcher Badiou de dormir, ce type d'approche-là, et sans vouloir être...
Peut-être que même ça lui donne des rêves humides.
Peut-être, va aller savoir, bon, on va pas être dans le détail. Cela dit, au passage, je signale quand même que c'est pas pour faire de la phobie anti-Badiou, mais il me semble me rappeler que certains camarades libertaires, et non des moindres, ont parfois, des tentations un peu de ce type-là, si je puis dire. Je me rappelle notamment d'un petit bouquin du camarade Colson, là, qui s'appelait Petit lexique philosophique de l'anarchisme, dans lequel il y avait un certain nombre de références à des philosophes chinois qui allaient un petit peu dans le sens de l'interprétation que Bitter démonte, hein, là, en s'intéressant lui à Julien. Bon, je le dis avec la prudence nécessaire, parce qu'il est question de plein d'autres choses dans le livre de Colson, qui est aussi très intéressant par d'autres aspects, mais il n'est pas sûr, hein, encore une fois, que voilà, la séduction que peut présenter cette approche un peu exotique de la philosophie chinoise soit complètement étrangère.
François Julien, en admettant que Bitter ait raison, ça lui retire rien, sans doute, d'une part de séduction et de brillant qui peut toucher n'importe qui facilement. Ouais.
Alors justement, je parlais de Colson à l'instant, là, le camarade de l'atelier de création libertaire, la revue Réfraction, et notamment un point sur lequel effectivement Colson insistait beaucoup, et c'est un des points centraux dans l'approche de François Julien que démonte Bitter, c'est tout le discours philosophique. Alors bon, m'excuser d'être un peu abstrait dans l'affaire là, mais je pense que ça se comprend assez bien. La manière dont on met en avant le fait que la pensée chinoise serait une pensée de l'immanence. Alors hein, l'immanence, c'est une catégorie philosophique un peu compliquée, mais ça se comprend assez aisément. L'immanence concerne tout ce qui émerge et tout ce qui émerge par le bas, je dirais. Voilà, donc de la matière, du corps, par opposition à la transcendance qui aborde le monde, la nature par le haut, donc par l'autorité, par l'esprit, par Dieu, la raison. Ça peut changer.
Quand on explique la nature par elle-même, c'est l'immanence. Voilà. Quand on explique la nature par Dieu, c'est la transcendance.
Voilà. Quand on fait appel à une cause extérieure, supérieure, on a une approche transcendante, effectivement, de la nature. Lorsqu'on privilégie l'immanence, on privilégie évidemment tout ce qui vient du corps, de la matière, de la nature elle-même. Donc, ce qui est évidemment, a priori, plutôt sympathique quand on n'est pas forcément favorable aux dieux et aux maîtres divers et variés. Mais évidemment, du coup, toute la question est de savoir ce qu'on entend par là. Hein. Alors, je vous lis un extrait. Là encore, on est page 60 là, du petit texte de Bitter. Parmi les clés dont François Julien se sert pour interpréter la pensée chinoise, entre guillemets, dans son ensemble, la plus importante est celle de l'immanence, entre guillemets. La pensée chinoise, entre guillemets, on a vu que du coup c'était sujet à caution comme formule, serait une pensée de l'immanence, selon évidemment François Julien, parce qu'elle n'éprouve pas le besoin de poser quoi que ce soit d'extérieur à la réalité dans laquelle l'homme évolue et agit. Elle conçoit cette réalité comme mouvante et comme mue par un dynamisme qui lui est inhérent, fait de tendances, de transformations, de retournements, qui obéissent à une logique intérieure à cette réalité même. La tâche est de les percevoir et de les prévoir afin de s'y adapter, d'en tirer le meilleur parti possible, de saisir les occasions qui permettent d'obtenir avec de petits moyens de grands effets. Dans un monde ainsi conçu, nul besoin de but en soi, de fin, de but si vous voulez, dernière, de valeur absolue, de vérité a priori, d'idées pures, d'un règne de l'intelligible extérieur au domaine du sensible, d'une théorie antérieure à la pratique, pas besoin non plus de cause première, de création, de Dieu créateur, de commencement absolu, etc. Donc dans ce monde, contrairement au nôtre, il n'existe pas de transcendance. Bon. Voilà pour l'idée générale qui semble la plus séduisante aux yeux de François Julien dans la pensée chinoise. Et alors, il y a la Bitter développe une critique que je trouve assez stimulante de la manière dont Julien présente les choses, de manière très abstraite, hein, vous voyez. Donc là, on est loin du système impérial et puis du servage généralisé sous l'égide de l'empereur. Mais en même temps, ça colle. les deux. Et c'est ce que rappelle Bitter, c'est-à-dire que il écrit un petit peu plus loin que son tort est de ne pas avoir, François Julien toujours, de ne pas avoir songé un instant à faire la critique de cette pensée. Il n'a pas vu qu'elle appartient à un monde dans lequel la question des fins, des buts autrement dit, ne peut être discutée, ni même posée, et dans laquelle l'intelligence est par conséquent condamnée à ne s'appliquer qu'aux moyens, aux méthodes, aux manœuvres et à l'art de s'adapter à ce qui est. Il n'a pas vu que la pensée de l'immanence est congénitalement liée à l'ordre impérial qui a créé un monde clos en résolvant de manière autoritaire la question des buts et des fins. Parce qu'il était aveuglé sur ce point, François Julien l'a idéalisé, a fait d'elle une essence de la pensée chinoise, puis de cette pensée chinoise, la contrepartie de la pensée occidentale. Si la question des fins ne peut être posée dans un tel monde, c'est que ce monde obéit tout entier à une finalité qui ne doit pas être remise en question, le pouvoir. Il lui obéit dans son ensemble et dans le comportement de ses agents qui, pour agir, tantôt dominent, tantôt se soumettent. Et lorsqu'il aborde le secret et le ressort de la domination dans « De la servitude volontaire », Étienne de la Boétie observe que, je vous cite l'extrait parce que je trouve ça très éclairant sur l'analyse qu'il propose. Donc là, c'est la Boétie qui parle dans ce texte extraordinaire là, de la servitude volontaire. Donc la Boétie écrit « Ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais bien toujours 4 ou 5 hommes qui le soutiennent et qui lui assujettissent le pays. Il en a toujours été ainsi que 5 ou 6 ont eu l'oreille du tyran et s'y sont approchés d'eux-mêmes, ou bien y ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs et les copartageants de ses rapines. Ces 6 dressent si bien leur chef qu'il devient envers la société méchant, non seulement de ses propres méchancetés, mais encore des leurs. Ces 6 en ont sous eux 600, qu'ils dressent, qu'ils corrompent aussi, comme ils ont corrompu le tyran. Ces 600 en tiennent sous leur dépendance 6000, qu'ils élèvent en dignité, auxquels ils font donner ou le gouvernement des provinces, ou le maniement des deniers publics, afin qu'ils favorisent leur avarice et leur cruauté, et fassent tant de mal qu'ils ne puissent se maintenir que par leur propre tutelle, ni s'exempter des lois et de leurs peines que par leur protection. Grande est la série de ceux qui viennent après cela. » Et là, on a effectivement une espèce de cascade, si vous voulez, articulée autour de la figure du tyran, hein, et de son entourage proche, qui, là, je trouve, met effectivement en perspective de manière tout à fait intéressante, cette espèce de pensée de l'immanence et d'un espèce d'ordre naturel immuable dans laquelle chacun a sa place, ne peut pas en sortir, n'a pas à discuter de but ou de changement des fins qu'il faudrait donner à l'ordre social, mais doit effectivement s'adapter, c'est-à-dire se soumettre dans 99% des cas, est dominé dans le cas des 1% qui sont plutôt en haut de la chute des corps, là, si je puis dire. Donc, cette approche-là, évidemment, elle permet de... Alors, ça disqualifie pas, si vous voulez, toute la philosophie chinoise, bien sûr, mais c'est évidemment ce qu'on appelle une approche critique. Hein, c'est-à-dire que...
Là, ce serait la philosophie du pouvoir en Chine.
Exactement.
Et pas forcément la philosophie chinoise, parce que faut distinguer, quoi. Ouais. Parce que les philosophes du pouvoir, on a un paquet, hein, en sûr, France, en Europe sûr. Et ailleurs.
Bah on en a donc, toujours un, là, Badiou, là.
C'est okay, du pouvoir, pas du pouvoir en place, mais du pouvoir plutôt en général.
Oui, en général, effectivement. Et alors, ce qui est très intéressant, et Bitter le rappelle, alors ça fait peut-être un petit peu plus tâche sur le CV de François Julien, je ne sais pas si Badiou a été sensible à cet aspect-là, c'est que du coup, alors, je cite toujours, à force de faire l'éloge de cette pensée captive, Nédibitaire, on est page 67, qui ne s'applique qu'aux moyens, aux méthodes et aux manœuvres, et qui est donc avant tout soucieuse d'efficacité, François Julien s'est peu à peu découvert des affinités avec les hommes d'affaires. Il s'est aperçu qu'il pouvait leur présenter une philosophie chinoise de l'efficacité, avec un U majuscule, qui leur révélait leur propre pensée, et leur permettait d'en assumer toutes les conséquences, puisqu'elle se trouvait soudain dotée de lettres de noblesse aussi flatteuses qu'inattendues. Il a développé ce thème dans « La propension des choses » et dans son « Traité de l'efficacité », et fait cette rencontre dans son livre le plus récent, « La conférence sur l'efficacité », un exposé qu'il a développé en diverses occasions, auprès de chefs d'entreprise et dans le milieu du management, comme ça l'est indiqué sur la 4e de couverture. Cet opuscule peut paraître négligeable en comparaison des études qui l'ont précédé, mais il représente un moment de vérité, nous dit Bitter. On y voit apparaître pleinement la parenté entre la pensée chinoise de l'adaptation incessante aux situations et la pratique des chefs d'entreprise, qui consiste à s'adapter continuellement aux transformations du marché. On voit qu'elles reposent l'une sur l'autre, sur l'acceptation d'un système donné et de la finalité qui est inscrite en lui, la lutte pour le pouvoir d'un côté, la recherche du profit de l'autre.
Oui, quant à l'adaptabilité, on nous fait assez chier avec, puisque maintenant tout est précaire, y compris l'amour, donc et pourquoi pas le travail, comme disait l'autre. Hein ouais. Et c'est bien en fait, parce que c'est une philosophie pour pour les dominants et pour les dominés.
Pour les dominants actifs.
Pour les dominants actifs, oui. Mais aussi pour les dominés, parce qu'ils doivent s'adapter.
Oui, bien entendu. Ah bah oui, ah, là,
c'est ça qui est efficace, ouais, ouais, s'adapter.
Tout à fait.
Quand ton patron te donne un ordre, plutôt que lui désobéir et de perdre ton boulot, tu t'adaptes. Bon, tu perds ton boulot quand même à la fin, mais c'est pas grave ça. Mmh. Tu en trouves un autre.
Et alors, du coup, évidemment, en creux, ce qui apparaît, et ce que je trouve aussi très stimulant, c'est la manière dont Bitter propose, si vous voulez, d'aller interroger les textes chinois. Parce que, évidemment, tous les mandarins ne sont pas sur cette ligne-là, tous les lettrés chinois ne le sont pas tous. Il y a quelques-uns, peu, nous dit-il, hein, mais qui ont essayé effectivement de sortir de ce carcan-là, ou d'essayer de poser les choses de manière différente. Et surtout, ce qu'il nous dit, c'est qu'au fond, du coup, la bonne manière d'aller interroger, selon lui, les textes de cette tradition impériale, eh bien, c'est de comprendre, si vous voulez, que la formule est assez éclairante aussi. Il nous dit, la Chine a ainsi pensé le pouvoir, mais pas le droit. Elle a pensé la machine à obéissance, nous dit-il, mais pas la transcendance de la loi et de la justice. Alors ça, c'est une formule de Julien, de François Julien, et Bitter nous dit, là, il pose le problème, il le pose mal, parce qu'en réalité, c'est pas la Chine et l'Europe qui sont en cause. C'est le despotisme impérial et l'idéologie qui va avec, et de l'autre côté, le principe démocratique et le refus de la tyrannie qui a donné lieu à de nombreuses luttes en Europe. C'est pas quelque chose d'acquis ou d'inscrit dans la génétique de tous les Européens, évidemment, que les Européens sont plus à même de penser la démocratie, ouais, le droit, la justice, mais c'est qu'il y a eu en Europe des conditions sociales, historiques particulières qui ont permis à ces idées d'émerger, de se conforter, de mobiliser et de transformer effectivement ce système qui a aussi existé.
D'ailleurs, la lutte pour l'égalité a mobilisé aussi en Chine. Au 19e siècle, tu as la guerre des Taipei, qui est assez terrible, ouais, et qui fait quelque chose comme 60 millions de morts.
La guerre des Taiping, ouais,
oui. C'est pas rien. Mais la base, c'est une revendication d'égalité et c'est un ras-le-bol général du pouvoir impérial aussi, ouais, qui va déchirer la Chine dans je ne sais plus combien de temps, 10 ans. Ouais. Ouais. C'est un truc terrible.
Ouais, tout à fait. Donc la bonne approche et la bonne manière effectivement d'aller du coup comprendre et contextualiser ces textes effectivement c'est le poser comme ça, non pas à partir d'une espèce de pensée européenne qui serait intrinsèquement démocratique ou favorable au droit, hein, mais à partir des luttes voilà concrètes que ça a donné. Et parmi ces causes là alors ça c'est intéressant aussi, je trouve que c'est assez juste, il dit que parmi les conditions qui ont permis en Europe de faire émerger un discours qui n'était pas uniquement complètement absorbé ou captif, hein, de cette espèce de machine à obéir là qui décrit, il y a la relative autonomie dont a pu jouir la noblesse à l'égard du pouvoir royal. Et c'est comme ça qu'il lit, par exemple, des auteurs, des moralistes, bon, connus pour un peu les spécialistes, des gens comme Gratian, Balthazar Gratian ou des gens comme ça. Il nous dit.
Balthazar Gratian, c'est une espèce de.
Courtisan,
le traité du courtisan, c'est une espèce de Machiavel pour justement homme de cour.
Exactement.
C'est-à-dire, comment faire si vous êtes à la cour pour mentir sans qu'on s'en aperçoive, pour repérer les menteurs, pour être gracieux, sans être un paillasson, etc. C'est une lecture assez rigolote.
C'est rigolo. Alors, en même temps, c'est le traité de la Réviste, hein.
Complètement.
C'est le traité de la Réviste, mais ce qu'il nous dit, c'est que l'intérêt de ce traité de la Réviste, c'est que non seulement il est d'un cynisme, parfois, qu'on ne retrouve même pas chez les mandarins les plus aplatis en Chine, dit-il, mais c'est que en montrant comment effectivement arriver tous les rouages du système de cour, ce que nous dit Bitter, c'est que Gratian nous apprend aussi quels sont les rouages du pouvoir. Évidemment, c'est une manière aussi de nommer les choses, de les comprendre, de les analyser et du coup de les mettre à distance. Hein, et effectivement comprendre qu'on a affaire à des phénomènes de cour, à des phénomènes de pouvoir, de flatterie, etc. Enfin, tous les mécanismes qu'on peut imaginer de ce côté-là. Eh bien, les nobles en Europe, de par effectivement la relative autonomie qu'ils avaient, ont pu le faire. Hein, ils ont su le faire, et c'est notamment cette condition-là qui s'est jamais trouvée en Chine. Hein.
Voilà, si José est dans les parages, est-il dans les parages? Bon, on pourrait peut-être faire bientôt une pause musicale, parce qu'on arrive à 15. Ah, bon, José est parti, je vais bricoler. Donc tu disais, oui, c'était une des causes, donc pas de noblesse autonome, parce que l'Empire, finalement, en chinois, s'était tellement imposé qu'il avait mis sous tutelle tout ce qui pouvait ressembler à la noblesse.
T'as pas d'équivalent à du système.
J'avais lu des trucs sur le mandarinat, où les, en gros, quand même, ils recrutaient dans les classes populaires des enfants brillants pour ensuite former une espèce de classe comme ça, de fonctionnaires intellectuels qui allaient tout dominer.
Oui, mais qui n'a aucun rapport avec la noblesse de terre ou la noblesse de fief, telle qu'on l'a connue en Europe.
C'est une noblesse de robe qui tient tout son pouvoir de l'empereur, y compris dans son salut social.
C'est des fonctionnaires.
C'est des fonctionnaires.
C'est des fonctionnaires sélectionnés de manière plus ou moins méritocratique d'ailleurs, d'où effectivement la séduction que ça peut exercer sur les bêtes à concours françaises. Voilà. donc évidemment, il nous dit, voilà, si vous voulez comparer ou si vous voulez avoir une approche critique intéressante, c'est pas la peine de présenter le Chinois comme quelqu'un d'impassible dont on sait jamais s'il rigole ou si voilà. C'est pas la peine non plus de le présenter comme un spécialiste d'une espèce de Tao assez flou ou des flux internes ou immanents. Non, comparer avec ce que dit Graciane, comparer avec ce que dit quelqu'un comme Saint-Simon sur les mécanismes de cours, ça on n'a pas effectivement l'équivalent en Chine. Et cette espèce de mise à distance, cette compréhension des mécanismes de pouvoir, bah, c'est une étape. Pas sympathique, hein, mais une étape indispensable dans justement la manière dont le pouvoir centralisé et total a pu être remis en question, critiqué et finalement en partie abattu dans des zones comme l'Europe.
Voilà, donc vous aviez entendu tout à l'heure un morceau de Man Louis Chang Tse, et là vous allez entendre un autre morceau de musique. Écoutez Radio Libertaire 89.4, c'est la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Donc ce soir, nous parlons d'un livre de Jean-François Bihiter qui s'intitule Contre François Julien et qui est édité chez Alia. Voilà, donc on a appris encore d'autres choses pendant la pause musicale, c'est formidable, on n'arrête pas d'en apprendre, parce que François Julien a aussi été soutenu non seulement par Alain Badiou, voilà, le grand Manitou, mais par Paul Ricoeur.
Libéral protestant qui a été le formateur d'Emmanuel Macron.
Oui.
Puisque Macron a été l'assistant de Ricoeur pendant des années avant de se lancer dans la finance.
Ah, ça je savais pas. Ricoeur aussi un petit passé obscur pendant la guerre. Hein. Mais bon, il a écrit 2-3 choses en faveur du maréchal. Et puis un autre aussi, on avait vu.
Bruno Latour.
Et Bruno Latour, ah oui, bon, bon Latour, on va pas faire son.
Ouais. On en parlera un autre jour. Bon, Paul est le professeur au Collège de France, grande figure de la sociologie critique incompréhensible, et probablement incohérente d'ailleurs. Et donc effectivement, la liste des admirateurs de François Julien me confirme dans l'intérêt que je porte à ce petit livre de Jean-François Bihiter, qui lui est beaucoup plus critique à l'égard de cette approche-là. Et j'ai essayé de montrer un petit peu comment effectivement Bihiter voit les choses et ce qu'il reproche à Julien. Bon, alors encore une fois, je le dis, je vais pas être malhonnête avec François Julien dont je connais pas l'œuvre, hein. Mais il me semble que l'intérêt du livre de Bihiter, il est ailleurs encore une fois, hein. C'est-à-dire que c'est un livre qui suffit à lui-même, parce que la manière dont les travers finalement qu'il reproche à François Julien sont des travers qu'on retrouve très souvent dans la vie intellectuelle de manière plus générale, c'est-à-dire une manière notamment notamment chez les philosophes, une manière de, finalement de d'enlever tout contexte historique, social et politique à une philosophie pour la prendre comme si elle était comme ça, ex nihilo, avec des concepts qu'on va volontairement rendre encore plus vagues qu'ils ne le sont. De manière ensuite à pouvoir en dire à peu près n'importe quoi.
Bah, le but c'est aussi de donner une espèce de goût d'éternel à ça.
Exactement.
C'est-à-dire que la plupart des philosophes, ce qu'ils craignent le plus, c'est de passer pour des journalistes, c'est-à-dire de parler de choses éphémères, parce que ceux qui parlent de choses éphémères sont éphémères eux-mêmes, alors que ceux qui parlent de choses éternelles deviennent immortels ou rentrent à l'Académie française, comme Alain Finkielkraut. Et je crois qu'ils ont aussi intérêt, un intérêt quasiment professionnel à décontextualiser à peu près toute pensée. Parce que voilà, bon, ça, tu parles devant l'infini, quoi, tranquille.
Alors évidemment, là où ça devient effectivement très gênant, et Bitter a raison de le pointer, c'est quand effectivement ça permet de présenter comme des pensées novatrices ou émancipatrices des approches qui sont en fait des pures philosophies de la domination et de la justification de la domination, quoi. Et ce qui semble effectivement être le cas à partir des auteurs et à partir des références que François Julien met en avant dans ses œuvres. Alors bon, on a déjà dit pas mal en espérant pas avoir été trop abstrait là, y compris dans la lecture. Moi, à titre personnel, c'est un livre court, je le rappelle, donc même si effectivement il a pu paraître dense à la lecture, je recommande vivement sa lecture. Le point important, encore une fois, l'intérêt professionnel, il est sur l'approche, je dirais, philosophique, qui est défendue par Bitter là-dessus. Comment effectivement on aborde une pensée qui nous est pas a priori familière, dans un contexte effectivement qui nous est pas a priori familier, et quels sont les travers à éviter, effectivement. Je résume finalement sa position là encore une fois, et c'est ça que je trouve séduisant effectivement chez lui. Il nous dit donc en page 59, ça c'est Bitter qui parle, j'estime qu'on ne peut rapprocher des textes philosophiques chinois de textes philosophiques occidentaux qu'en posant d'abord qu'ils ont un objet commun, en dégageant cet objet et en examinant de quelle façon il est appréhendé de part et d'autre. François Julien ne se préoccupe pas de l'objet commun, il pose a priori qu'il a affaire à des univers de langage autonomes qui diffèrent par leur logique autant que par leur objet, et qu'on ne peut donc comparer que du dehors en les mettant en regard, entre guillemets, c'est une forme de Julien, mais quand elle n'est plus lestée par aucune expérience commune, cette comparaison se réduit à un jeu gratuit, nous dit Bitter. Cette conséquence ne semble pas gêner François Julien, puisqu'il se flatte de pratiquer un comparatisme expérimental, entre guillemets, et suit en cela Gilles Deleuze, pour qui la philosophie n'avait pas à proposer des idées justes, je cite, mais juste des idées, le disait Deleuze. De chez Deleuze provient aussi l'idée de, entre guillemets, faire travailler mutuellement des pensées différentes, celle de la transversalité, entre guillemets, dans laquelle se situe ce travail, entre guillemets, celle du pli, entre guillemets, tout ça sont des thèmes qui sont développés évidemment chez Deleuze, arbitraire dont naît chacune de ces pensées et de la logique particulière qui la régit, etc. L'ambition n'est plus de rencontrer une quelconque réalité, mais de mettre en présence de la pensée et de la pensée, le tout entre guillemets, et de tirer de là des effets. Toujours entre guillemets, François Julien emprunte à Michel Foucault l'hétérotopie, entre guillemets, terme de Foucault, ce lieu autre où le philosophe est censé se placer pour considérer du dehors sa propre pensée, mais ce lieu autre n'est plus à la fin qu'un topos de son propre discours. Tout ça pour dire que finalement le reproche fondamental qui est fait à Julien, c'est finalement de ne jamais parler de la Chine. De ne jamais parler de la Chine, mais de parler finalement de son goût personnel, avoué ou pas, là pour le coup ça ne me regarde pas, pour les idéologies brillantes du pouvoir dans un cadre qui est celui de l'université française, c'est-à-dire d'un système républicain de sélection élitiste
mandarinal,
et qui effectivement du coup trouve ou va chercher des résonances le plus loin possible, de manière à justifier par les arguments les plus lointains sa propre position d'autorité et sa fonction sociale avec les avantages qui vont avec.
Et donc paradoxalement peut-être que c'est grâce à sa position de quasi-mandarin que François Julien a pu aussi bien comprendre les mandarins chinois réputés par lui-même incompréhensibles.
Exactement.
Donc
exactement.
Ce serait une espèce de comme ça de reconnaissance, tu vois, lointaine de l'égal. Ouais. À toi aussi, tu es mandarin.
Exactement. Alors, et pour terminer peut-être rapidement sur ce point-là, un dernier point qui résume un peu finalement la position qui est défendue par Bitter, qui elle aussi, alors pour le coup, invite et donne envie d'aller regarder du côté des philosophes chinois, comment du coup comprendre ces tensions là que lui évoque. Alors il nous dit ça dans les pages 84, il nous dit, c'est pourquoi j'estime, donc là c'est Bitter qui parle, que ce que nous considérons aujourd'hui comme la civilisation chinoise, entre guillemets, est intimement lié au despotisme impérial. Je pense que cette civilisation a été conçue pour empêcher l'émergence de la personne, au sens que je viens de donner à ce mot, et que nous devons la juger là-dessus. non pour nier sa grandeur, ni pour réduire le rôle qu'elle a joué dans l'histoire, mais pour déterminer le rapport que nous voulons entretenir avec elle. Elle ne sera pas nulle et non avenue, mais reconnue pour ce qu'elle fut. Comme certains intellectuels chinois que j'ai cités, je pense qu'elle est appelée à être transformée et dépassée par l'affirmation de la personne et les droits politiques. Nous saisirons le despotisme chinois non plus dans sa vision idéalisée qu'il a donnée de lui-même, mais dans son principe, et nous pourrons le comparer à des formes de pouvoir que nous avons connues en Europe, à leurs effets sur les mœurs, sur l'esprit public, sur les formes de pensée, en France tout particulièrement, où l'État centralisé a joué un rôle aussi important qu'en Chine. Hein ? Alors là, effectivement, moi, quand je dis ça, j'y connais rien, effectivement, à la philosophie chinoise, mais je file directement à la bibliographie qui est à la fin, et puis aux citations qui sont évoquées, que j'ai pas eu le temps là de développer là ce soir, parce que là, effectivement, ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui stimule et qui me semble intéressant, y compris aujourd'hui, hein, et qui a cette actualité que des interprétations comme celle de François Julien ont l'air de fuir comme la peste, parce qu'ils se sentent menacés par d'autres formes de critiques sur l'autorité ou le magistère intellectuel qu'ils exercent. Voilà, ben, on a fait peut-être un peu le tour là rapidement. Je rappelle donc, alors pardon d'avoir été peut-être un peu technique, mais le livre ne l'est pas, hein. J'insiste là-dessus, c'est une langue très économique, très, très agréable à lire. Ça fait en tout, vous voyez, 115 pages, c'est un petit livre, voilà, très, très brillant. Contre François Julien, de Jean-François Bitter, aux éditions Alia. Et si vous voulez compléter donc ce deuxième texte de lui, alors que la plus généraliste, je dirais, Esquisse au pluriel, du même, chez le même éditeur, hein, aux éditions Alia. Donc deux petits conseils de lecture, ça se lit très bien et c'est bourré d'intelligence. Voilà.
Vous pourrez retrouver cette émission sur le site avec l'indication de tous les morceaux de musique. Vous pourrez retrouver donc cette émission sur le site de José Gurdulu. Vous tapez Gurdulu et Jeudi Noir et vous tombez dessus. Il y a toutes nos archives. Des dizaines et des dizaines d'émissions. Voilà, et puis on se revoit dans deux semaines, normalement, peut-être avec un invité. On verra ça. Au revoir. A Taoist pot in the mountains sound so happy. Waterfalls, 100 sticks of chip and sands. Flocks of geese flying south, they call. In poverty, a search for gold. A king, horns are tucked to the walls. The Taoist haunt in the mountains, my tiny meditation hall. A Taoist heart in the mountains, my tiny meditation hall. 100 sticks of chip and sand, so burn a stick 3 times a day. A Taoist hut in the mountains. To the protecting gods I pray, wild goats climb on the steep inclines, nature spirits at night they play. A Taoist heart in the mountains, a lovely bird song can be weighed. A Taoist heart in the mountains, a lovely bird song can be weighed. A Taoist hut in the mountains, the fragrance of white little tea, 100 sticks of chip and sands. From high offices I did fly, I left the busy streets behind. Every day I do as I please. A Taoist hut in the mountains, 40 little brass they tease. A Taoist hut in the mountains, 40 little brass they tease. 100 sticks of chicken sands, a single moon sits in my cup, a Taoist hut in the mountains. My morning mist is enveloped, the mirror is long since broken, for lunch I snack on a turnip. A Taoist hut in the mountains, a simple little soup I serve. A Taoist hut in the mountains, a simple nettle soup, a serve.